le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Gilles Ascaride. Il est auteur de théâtre, romancier, comédien. Par ailleurs, il représente aujourd'hui sur France Culture le mouvement littéraire le plus revigorant à ma connaissance, l'Over Littérature. Pas l'Over de aimer littérature, mais Over Littérature comme overdose. Ce mouvement n'est pas encore au programme des lycées, mais ça ne saurait tarder. Le week-end dernier, j'ai assisté à une scène très instructive dans mon petit village de Haute-Ariège. Nos deux petits rebelles, Carmela et son grillon Negrito, venaient de rentrer au village après leur voyage à Paris où ils étaient allés soutenir leurs camarades au tribunal. Vous vous souvenez d'Alexis, un des prévenus interpellés pour avoir chanté dans les manifestations? Donc, sitôt arrivée au village, une de mes voisines, qui s'inquiétait des absences scolaires de Carmela, l'année du CM2 surtout, ne put se retenir de lui en faire le reproche. Sans laisser le temps à Carmela de se justifier, Negrito répondit sèchement « Crois-tu que la seule manière d'apprendre soit à l'école ?» Connaissant la capacité de Negrito à polémiquer, la voisine préféra élargir la discussion en s'adressant à nouveau à Carmela. « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, lorsque tu seras grande ?»« Bah, vivre. » »« Oui, enfin, vivre, bien sûr, » dit la voisine, « mais ma question était, quel métier tu voudrais faire ?»« Bah, j'en sais rien, moi, » répondit Carmela. « Ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que je veux courir, rêver, découvrir, rencontrer des gens de partout, aimer, ne rien faire. » Regarder, écouter les oiseaux aussi, oui, rire avec mes amis, et danser aussi, et puis chanter. Ma voisine interloquée répliqua péremptoire. Mais ce n'est pas la vie, ça, Carmela. Il faudra bien que tu travailles, que tu aies un appartement, une voiture, que tu puisses te nourrir. La vie, c'est ça. Carmela regarda son grillon Negrito étonné, sans doute à court d'arguments. L'insecte vint alors se poser tout au bout du nez de ma voisine pour clore le débat par ces mots de Jacques Prévert. À chaque kilomètre, chaque année, des vieillards au front borné indiquent aux enfants la route d'un geste de ciment armé. Gilles Ascaride, vous êtes mon seul invité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, à lire, à entendre et à découvrir parce que le mouvement littéraire dont vous faites partie, l'Over Littérature, n'est pas particulièrement présent dans les médias. Sauf que vous, quand même, on a pu vous écouter déjà sur France Culture dans un feuilleton que vous aviez écrit, vous étiez l'auteur, Dernière histoire du monde, et en tant que comédien cette fois-ci sur un texte de Serge Valetti avec votre frère et votre sœur, puisque dans la famille Ascaride, il y a Pierre Ascaride qui a dirigé un théâtre, qui était comédien et écrivain aussi, je crois d'ailleurs.
Un peu, oui.
Voilà. Ariane Ascaride, qui est peut-être la plus populaire en tant que comédienne, sûrement. Et puis Gilles. Donc c'est Gilles que nous avons aujourd'hui. Alors vous avez été universitaire, docteur en sociologie, vous avez écrit des livres très sérieux. Et puis vous êtes mis aux choses réellement sérieuses à partir d'un certain moment, après avoir fait quand même le conservatoire d'art dramatique. Et vous avez écrit vos propres textes, que ce soit des romans ou que ce soit du théâtre. Et moi, je suis tombée sur vous, si j'ose dire, et en tout cas sur votre langue, sur votre univers, au théâtre, au Festival d'Avignon, pour une pièce dont vous étiez l'auteur, Mademoiselle Espérance. Et ce que j'avais aimé, on va commencer peut-être par là, c'est que cette pièce remettait au goût du jour, dans un festival où parfois on se pince un peu le nez, une langue truculente, pleine d'imagination, des chansons populaires. Alors la mise en scène n'était pas de vous, mais il y avait dans la mise en scène quelque chose qui nous rapprochait du cabaret, de la comédia dell'arte, c'est-à-dire qu'on pouvait rire au gras, qu'on pouvait être ému, qu'on pouvait à la limite chanter aussi, parce qu'il y avait des moments chantés, et qu'on se sentait pas malvenu dans ce théâtre-là. Et là, je me suis dit, ah, enfin, un auteur vivant.
Ben, c'est gentil, puis je voulais d'abord vous remercier de me faire vivre sur France Culture, parce que, je le dis sans acrimonie, mais depuis 35 ans que je publie, c'est la première fois que je suis invité dans cette radio pour parler de mon travail. Donc effectivement, oui, un auteur vivant, j'espère que je vais vivre encore un petit peu, parce que je suis plutôt jeune, mais je ne saurais pas écrire autrement. Voilà. J'ai horreur de la littérature minimaliste, j'ai horreur du rikikisme, j'ai horreur des gens qui mettent la littérature à distance et, comme je dis, qui n'écrivent qu'en deux dimensions. Pour moi, la littérature, c'est comme la vie, c'est comme la parole. Il faut toutes les dimensions, c'est-à-dire au moins trois. Et si je crois que je suis devenu en plus complètement incapable d'écrire quelque chose où les gens ne riraient pas. Voilà. Il me semble que c'est quelque chose. Le rire, d'accord, c'est le propre de l'homme, mais le rire, c'est une forme de combat. Le rire, c'est une forme de réponse à certains princes qui nous gouvernent, de dire, eh ben, tu m'empêcheras pas de rigoler, quoi. Tu m'empêcheras pas de rire, et tout n'est pas drôle, mais il y a une insurrection, je dirais, dans le rire, hein, une résistance, une volonté de ne pas marcher obligatoirement dans les clous, sans être pour autant un Robin des Bois, qui, moi, me fait avancer. J'ai assisté à plusieurs représentations de Mademoiselle Espérance. Il y a deux choses qui m'ont toujours emballé. C'est que d'abord les gens riaient et que j'étais tellement content de les faire rire, parce que moi, quand on me fait rire, j'ai beaucoup de gratitude pour quelqu'un qui me fait rire. Mais je dois dire qu'une fois, j'y suis allé accompagné de la fille d'un ami à moi, qui était une jeune femme qui avait 24 ans. Et à la fin de la pièce, elle était en larmes. Complètement en larmes. Et ça m'a touché. Elle m'a dit, oui, j'ai ri, mais c'est tellement touchant. Et je trouve que, bon, ce qui est touchant, c'est aussi le fait de parler, bien sûr, d'une époque, de l'opérette, de tout ça. Mais il ne faut pas oublier que tout ça se déroule dans une maison de retraite.
C'est
où
ça.
Il y a une vieille dame qui est en train de finir ses jours.
Et de perdre la mémoire,
et
peut-être.
De perdre, et d'être atteinte par Alzheimer. Mmh. Et donc de perdre tout ce qu'elle a été. Et d'être relativement peu considéré, comme je crois que, quelle que soit la maison de retraite, quand on est vieux et qu'on est là-dedans, on est vraiment cuit, et qu'il vaut mieux chanter comme un vieux coq jusqu'au dernier jour que de finir comme ça.
Et moi, j'étais très émue par ça aussi. J'ai beaucoup ri dans cette pièce, mais j'étais très émue. Je crois que j'ai eu aussi des larmes parce que on est peu considéré, dites-vous, quand on est vieux. Mais ce qui n'est pas considéré non plus aujourd'hui et qui est souvent méprisé, c'est la culture populaire.
Ben,
c'est-à-dire justement le rire, le chant, l'insolence et le coup de pied au cul au destin, comme je ne sais plus qui disait que le rire est aussi ça. Et ce monde-là, qui est un monde profondément humain, est beaucoup oublié, méprisé, caché. Et c'est ça qui m'avait beaucoup émue et que je retrouve dans tous vos livres, que ce soit La Conquête de Marseille, que ce soit Les Haines Postmodernes, que ce soit celui dont on va beaucoup parler, parce que je pense que les jeunes gens devraient tous lire ce livre ou l'écouter quand vous le jouez, J'ai tué Maurice Thorez. C'est cette réhabilitation de cette langue populaire, mais derrière la langue, il y a ce que vous disiez, la dignité, l'homme ou la femme debout.
Et oui, sauf que si vous voulez, le langage est dressé comme un chien policier, a dit je ne sais plus qui, et que toute cette culture populaire... Alors, il faut pas confondre culture populaire et populisme. Hein. Y a pas, dans le peuple dont je viens, il n'y a pas que des bonnes choses. Les pauvres sont souvent méchants, ils sont souvent âpres aussi. Mais je trouve qu'il y a souvent... Moi, j'ai toujours ri, même dans mon travail de sociologue, et j'ai toujours travaillé le plus souvent avec des couches populaires. Et Dieu sait s'ils m'ont fait rire. Des fois sauvagement, des fois avec comme on peut rire à Marseille, hein, qui est une ville très sauvage au niveau du langage, pas tellement au niveau des attitudes et des mœurs, mais au niveau du langage, on se fait pas de cadeaux. Mais c'est vrai que si on fait ce choix, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est ça aussi l'over-littérature. Ça veut dire que on ne peut pas avoir grandi, vous voyez, pauvre mais propre, je sais pas ce que ça veut dire, moi. Hein. Les pauvres, quelque part, sont débraillés, en partie. Ils ont de la dignité, mais ils peuvent être débraillés. Et c'est vrai qu'en même temps, il faut pas avoir peur de l'obscénité. Il faut pas avoir peur de ces choses-là, des gros mots. Et en même temps, il faut pas avoir peur des proverbes. Il faut pas avoir peur des chansons. On vit dans une littérature maintenant qui ne supporte plus la drôlerie. Moi, des éditeurs m'ont dit, Ascaride, c'est bien ce que vous écrivez, mais il y a un problème avec vous. Vous avez vraiment beaucoup d'humour et ça, quand même, hein. Et je me dis, donc ça veut dire soit on écrit des livres déconnants, on va dire, je vous préviens, j'écris un livre pour vous faire rire, alors c'est un livre rigolo, mais si on fait de la littérature, pour faire de la littérature, il faut pas avoir d'humour. Hein, c'est comme le tragédien sera toujours mieux considéré que le comédien, et pourtant celui qui fait rire, à mon avis, enfin moi qui fais du théâtre, qui essaie de faire rire, il me semble que c'est drôlement plus compliqué de faire rire les gens que de s'adresser simplement ou à leur esprit, à leur culture ou à leur drapé, quoi. Et vous, je pense que c'est plus facile d'être dans le drame que l'on cultive à mort dans la culture française actuellement que dans le rire.
Alors, Jean Contrucci a préfacé un de vos livres, La conquête de Marsègue. Marsègue, c'est Marseille, hein.
Oui.
Et voilà ce qu'il dit, en fait, de votre style et de l'over-littérature. C'est de la littérature de haute Grèce, erratique, outrancière, carrément bouffonne, élucubrante, déjantée, iconoclaste, en un mot hors norme. Amateur d'eau minérale sulfurée, de régime macrobiotique, de yoga ayurvédique et de faribole ésotérique, passez au large. Ce roman n'est pas pour vous. Ici, on mord dans le saignant, on éructe dans le grandiose, on sarcasme sans retenue, on exagère dans les grandes largeurs, sans limite ni complexe, on se gave jusqu'à l'ivresse de mots extravagants et de personnages escagassants. Voilà ce que pourrait être la définition de ce mouvement littéraire. Vous êtes combien à écrire dans ce mouvement ?
Bah, si vous voulez, on est deux pères fondateurs, hein, Henri, Frédéric Blanc et moi. Et puis, on a un certain nombre de personnes qui ont fait des incursions en over-littérature, comme Anne-Marie Ponceau, comme Xavier-Adrien Laurent, Serge Scotto. Mais si vous voulez, on n'a pas l'intention de faire une secte ou c'est pas l'Oulipo, on va pas imposer des règles. Je pense que la définition de Contrucci, qui est un grand monsieur, hein, de la littérature et à titre personnel, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de considération, ça parle pour soi. Seulement, il faut bien savoir que cette littérature de haute Grèce, eh bien, elle est mal vécue par les éditeurs, elle est mal vécue par bien des journalistes, elle est mal vécue par les autorités, les notables, voilà, parce qu'elle est relativement impertinente, elle n'est pas provocatrice, on est tous sauf des provocateurs. Mais par contre, c'est vrai que l'impertinence, fait partie de notre.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que, au fond, il y a tout ce courant de Provence qui a été beaucoup de folklore, qui a beaucoup été utilisé, y compris jusqu'à l'extrême droite, jusqu'à rejeter tout ce qui n'est pas fièrement provençal, ou un côté fermé sur Marseille, puisque c'est quand même là le berceau de l'over-littérature. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là de tomber sur ce type d'auteur?
Mais bien sûr, je comprends bien que bien des gens ont peur de cette espèce de régionalisme à la fois étroit et tout à fait réactionnaire, oui. Alors que nous, on dit non, on travaille sur ce qu'on a appelé l'esprit marseillais, qui est universel, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on emploie des mots de marseillais ou des tournures de phrases ou surtout un esprit qu'on a renoncé à s'adresser au monde et qu'on ne veut parler qu'à nos corréligionnaires. Jamais de la vie. Moi, je suis le contraire d'un provençaliste. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Fier d'être marseillais » avec un point d'interrogation parce que je n'ai aucune raison d'être fier d'être marseillais ou honteux d'être marseillais. On ne peut être fier que des bonnes choses qu'on a faites. Après, on n'est pas fier de sa naissance, c'est idiot, quoi.
Alors, vous pouvez être fier de ce roman que j'ai lu en me tordant de rire et en même temps, on ne fait pas que rire, évidemment. C'est « J'ai tué Maurice Thorez ». Et j'aimerais, parce que vous le jouez avec un de vos compères...
Gérard Andréani.
Voilà, Gérard Andréani qu'on salue. Vous le jouez, c'est-à-dire lui... joue le juge et vous l'assassin, puisque vous avez tué Maurice Thorez et que vous vous livrez à la justice. C'est-à-dire que vous venez demander à la justice de vous condamner. Alors, vous allez lire, si vous voulez bien, un premier extrait du tout début où vous êtes au tribunal, et ensuite, je vous demanderai un autre extrait où, rien qu'à l'imaginer, j'ai déjà le fou rire, hein, et qui va intéresser nos jeunes lecteurs,
je l'espère, parce que c'est vrai que, si vous voulez, ce texte, il a deux existences. Une, qui est l'existence littéraire, qui est en forme de livre, j'ai écrit ce texte-là, et puis la forme théâtre, donc, que je joue. Donc, je vais... Là, on est dans la littérature. Tu me crois ou tu me crois pas, mais voilà que l'heure a sonné pour moi. Je me prends moi-même et je me jette tout cru au pied du tribunal. Je vous parie 50 kilos de panisse, un tonneau d'anchois ou l'entrecuisse de ma femme préférée que le juge, il va me lâcher tout à trac. Accusé, levez-vous. À moi. À moi qui viens en l'hiver de mon âge, tout frémissant et blême, tout blanchi sous le harnais et chauve comme un cul de pauvre de me jeter par terre, par exemple. Et si je ne suis pas par terre, c'est que je suis déjà debout. Et du coup, il n'a pas à me dire de me lever. Alors, pas question, je ne me lève pas. Debout je suis, debout je reste. Et s'il me dit de m'asseoir, eh bien c'est non, et encore non. Hors de question, je refuse. Pourquoi? Parce que je ne le mérite pas. Même pas de m'asseoir, je mérite. Le juge, il n'en revient pas, jugé de sa stupeur. Pas question, pas question, mais pas question. Pas question, pas question, pas question. Et pourquoi, je vous prie? Parce que je suis misérable, et misérable, misérable.
France Culture, Le Temps Buissonnier, Aline Paillet.
Donc, petit à petit, on va voir comment cet accusé, son auto-accusé, est devenu assassin. Alors, pour ça, on va passer par toute l'histoire de sa vie. Notamment, on va remonter dans la jeunesse, lorsqu'il faut choisir une langue, notamment, parce qu'au lycée, eh bien, il faut apprendre...
Une seconde langue.
Une seconde langue,
en quatrième.
Voilà. Vous aviez le choix entre l'espagnol, l'italien...
L'allemand. Ou le russe.
Et... Vous allez choisir le russe. Donc, je prends le russe. Et là, allez-y.
Donc, je prends russe. Du coup, je me suis emmerdé pendant des années pour rien. Mais alors rien, hein. Et puis, emmerdé, vraiment. Je ne sais pas si vous le savez, mais d'abord, les Russes, ils écrivent même pas comme nous. Il faut changer d'alphabet. Le cyrillique, ça s'appelle. Alors là, pardon, une galère. Vous croyez que c'est un P? Non, c'est un R. Vous croyez que c'est un R? Non, c'est un YA. Attention, pas un A, un YA. Parce qu'ils ont les deux. Le A, ils l'ont aussi. Et ils nous font le coup pour toutes les voyelles. Ils nous les doublent. A et YA, O et YO, E et YE, OU et YOU, etc. Ils ont même deux I. Le dur et le mou. Le U et les I. Arrangez-vous avec ça, mon festival. Vous croyez que c'est un M? C'est un T. Vous croyez que c'est un B? C'est un V. Vous croyez qu'il y a écrit Pectopa? Et en fait, il y a écrit Restaurant. Restaurant, quoi. C'est ça, fait un film des fous. Heureusement, je n'avais pas choisi l'arabe. Faites de la tenue, hein, n'exagérons pas. Attendez, en russe, il y a les déclinaisons aussi. Ils en mettent partout. Ils ne savent pas vivre ça. Et en avant, hein, tout se décline. Les mots, les pronoms, les articles... Les noms propres, les adjectifs, vous n'allez pas me croire. Mais pour les adjectifs, il y a au moins 24 cas. Pour de bon. Et les verbes. Si vous dites au présent ou au futur, c'est pas que la conjugaison qui change, c'est le verbe. Ils en mettent un autre, carrément. Entre nous, on se demande comment ils font pour parler. Hein.
C'est vrai que c'est rare de lire un livre et de se gondoler en le lisant, mais ça a été le cas tout au long de ces livres. Et en même temps, on réfléchit à sa propre éducation. Et par exemple, les exemples qu'on vous a donnés, juste faites-moi plaisir, Gilles Ascaride, lisez-moi juste derrière là, la petite phrase que vous, normalement, que vous devez toujours savoir par cœur. Mais je ne sais pas si c'est vrai.
Qui est ce Migotchev? Eh bien, notre pauvre russe au lycée, Marius Olive, un fanatique de la grammaire. Migotchev, il nous martyrisait avec les déclinaisons et les accents toniques, un fou. Ah, parce qu'en plus, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, il y a aussi les accents toniques, il y en a partout. Et si on ne le plaçait pas bien, et si on ne le faisait pas durer suffisamment, il nous tirait des bouts de craie sur la tronche. Un fou, un pervers. Plus de 50 ans après, je l'ai encore dans l'oreille, en train de nous faire hurler « Dietzky, Pierre Givania !» Vous pouvez vous imaginer pourquoi, hein.
mais pour bien nous faire placer et durer l'accent. Il y a des jocris qui disaient tout à l'heure que c'était chantant. Eh ben, il fallait chanter, mais pour de bon. Dieu, qui est Piedigivania. Et comme vous allez me demander ce que ça veut dire, je vous le dis tout de suite parce que ça, tiens, je m'en souviens. Ça veut dire émotion d'enfance.
Voilà. C'est... Alors, pourquoi avoir écrit ce texte? Parce que vous avez besoin de revisiter toute votre enfance, votre jeunesse, vos copains, vos souffrances et vos joies à la découverte de l'amour dans ce fameux bateau russe qui va accoster à Marseille, évidemment.
En fait, si vous voulez, c'est parti. Un soir, j'étais au festival à Avignon. Et je buvais un coup avec Serge Valetti et deux autres comédiens. Et je me suis mis à lui raconter cette histoire du bateau russe où on allait quand on était gosse et que, où le prof de russe nous amenait pour visiter ce bateau russe parce que c'était impossible. On apprenait le russe, mais on pouvait parler avec personne et des Russes, il n'y en avait nulle part. Hein. Faut imaginer ce que c'était. C'était quand même la guerre froide. Hein. Et donc, et après, je me suis dit, mais merde alors, mais cette histoire, mais c'est vraiment une pièce, je peux faire toute une histoire. Et effectivement, donc tout m'est revenu. En partie, je me suis dit, je vais utiliser ces quatre copains avec qui, parce que on était allé faire la visite sur le bateau, et ensuite nous, on s'était amourachés de ce bateau. On avait 14 ans, hein, 15 ans. Et on s'était aussi amouraché d'une chambrière qui était jolie comme tout, qui s'appelait Svetlana. Et alors, on retournait sans cesse sur ce bateau pour retourner voir ces Russes, boire de la vodka et faire la cour à ces chambrières, surtout à cette belle blonde. Et c'est vrai que ça m'a ramené, évidemment, à toute cette époque. Ça m'a si bien ramené que mes copains du lycée, que j'avais perdu de vue depuis, 30 à 40 ans, et moi, je les ai tous retrouvés, tous ceux dont j'ai mis dans cette histoire. Ils sont tous venus voir le spectacle et on s'est tous retrouvés. Maintenant, on atteint les 70 ans et on s'est retrouvés comme au premier jour et on continue à déconner, il n'y a pas d'autre mot, comme quand on était ado.
Alors, justement, les ados d'aujourd'hui, quand vous allez dans un lycée, une bibliothèque, quand vous partagez ce texte, où on va voir, il y aura le service militaire, où vous allez tout faire pour vous faire réformer, vous allez y arriver, il y aura mai 68, comment vous allez le vivre, pas de manière héroïque du tout, vos premiers amours, etc. Comment réagissent les jeunes? Parce que c'est un monde tellement loin de leur monde aujourd'hui.
Alors, en effet, c'est un monde loin de leur monde et alors, par exemple, si vous voulez, évidemment, il faut leur expliquer qui est Maurice Thorez. Bon. Mais une fois qu'on a fait ça, ils savent à peu près quand même qu'il y a eu un parti communiste, etc. Et je crois que ce qui les intéresse, c'est moins le rapport à Maurice Thorez et à la culture communiste que le fait, effectivement, que... On se retrouve en tant que jeune hein, avec ses premiers émois, ces choses-là. Mais quand même, je me sers toujours de ça pour leur montrer. On a ça de commun avec Philippe Cobert. On est des fanatiques de mai 68, non pas parce qu'on est des révolutionnaires à tout craint, encore que, mais pour montrer comment les choses ont basculé à ce moment-là. On est passé d'un monde à l'autre. Et souvent, je crois que les jeunes de maintenant n'ont pas l'idée. Ils savent pas à quel point ça a été une révolution dans les mœurs et que effectivement, par exemple, toute cette sexualité bridée, cette espèce de soumission qui faisait notre vie quand on était adolescent. J'aime bien parler de ça avec les adolescents, leur dire votre vie n'est peut-être pas rose maintenant, etc. Mais sachez quand même qu'il y a eu des acquis, hein, comme pour les travailleurs, il y a eu des acquis. Et faites attention de ne pas les perdre, surtout. Il y a eu des acquis pour les garçons et pour les filles, faites attention de ne pas les perdre.
Et cette langue qu'on a entendue par les extraits que vous avez gentiment lus, est-ce qu'elle les étonne? Parce que moi, en le relisant, pour préparer l'émission, puisque je l'avais lu il y a 2 ans à peu près, ce livre, J'ai tué Maurice Thorez et autre histoire over politique, c'est le sous-titre, je me suis dit, et je ne l'avais pas eu du tout à la première lecture, mais cette langue si imaginative, si boursouflée par moments, qui prend des tas de libertés, mais qui en même temps est très imagé, qui, voilà, me fait penser à la langue que l'on a aujourd'hui, peut-être moins dans les milieux ouvriers, mais par exemple chez des jeunes de banlieue, qui eux aussi réinventent la langue, ont un accent. Et je me suis dit, en réhabilitant cette langue-là, Gilles Ascaride, vous autorisez toutes les autres, tous les autres chemins buissonniers de la langue.
Oui, absolument. Alors, par exemple, si vous voulez, je veux dire que la seule chose qui doit rester, c'est l'universel. C'est-à-dire, quelle que soit la langue qu'on parle, dont on sert pour écrire, etc. Moi, j'ai horreur des langues codées. Hein, par exemple, je suis pas verlan. Hein, je parle le français parce que je sais qu'avec le français, d'abord, je peux m'adresser à toute la francophonie. Et puis au-delà, je veux dire, je m'adresse au monde entier. Hein, et tous les auteurs d'overlittérature, on est sur ce cas-là. Et je pense que d'une certaine façon, par exemple, même si c'est un art que je n'aime pas le rap, mais je dois reconnaître que le rap, eh ben, s'adresse à l'universel. Hein. Les jeunes qui écrivent du rap, qui chantent du rap, ils chantent pas pour simplement leurs copains dans leur cave. Ils s'adressent au monde entier. Donc effectivement, c'est bien de travailler sur le langage, c'est bien de le faire naître, de le composer, de. Mais si on a toujours le souci de dire quand je parle comme ça, je parle au monde. Et par contre, nos élites ici continuent à prétendre que quand on parle comme ça, on ne s'adresserait qu'à une fraction de la population, ce qui est complètement faux. Hein, parce que le rap, si on l'écoute, on comprend très bien ce que disent les jeunes. Et nous, quand on écrit de l'over-littérature, croyez que moi, quand je joue J'ai tué Maurice Thorez, je l'ai joué à Paris, je l'ai joué à Grenoble, je l'ai joué dans le Nord, etc. Tout le monde comprend tout. Hein, même s'il y a des mots de Marseillais, tout le monde comprend tout, c'est pas vrai. Et pour aller un tout petit peu plus loin, je dois vous dire qu'il m'est arrivé des tas de fois d'avoir la chance d'avoir des jeunes, des ados dans la salle qui sont venus me voir à la fin pour me dire « Monsieur, on n'aurait jamais pensé qu'on pouvait autant rigoler au théâtre. » Voilà. Donc ça, je me suis dit « Mais si je les ai fait rire avec cette histoire, c'est gagné. »
Et puis, vous parlez de il n'y a pas de tabou. Par exemple, dans un autre livre que j'ai beaucoup aimé, on n'aura pas le temps d'en parler vraiment, N postmoderne. Donc dans ces N postmodernes, il y en a beaucoup. Donc c'est des petits chapitres, je hais. Et il y en a une, c'est je hais le travail. Donc je me suis précipitée dessus. Combien ça va parler aux jeunes quand vous dites « Enfin, je voyais bien les gens travailler autour de moi, ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles et tantes, mes voisins, les parents de mes copains, tout le monde. Enfin, chez les petites gens, c'était comme ça. Tout le monde travaillait. Je n'ai jamais été séduit par leur vie. Je n'ai jamais été attiré par leur quotidien. J'étais content de ne pas être eux. Mais je savais également que cela n'aurait qu'un temps, que je grandirais, que le Moloch de l'emploi, du salariat, viendrait tôt ou tard me demander son dû, sa livre de chair.
C'est vrai que c'est compliqué. Moi, pour autant, j'ai travaillé toute ma vie, mais je peux pas dire. Je veux dire, j'ai jamais eu le culte du travail. Oui, j'ai vendu ma force de travail. J'ai fait des études. Ça, par contre, j'y tiens. Mmh. Je me suis bagarré parce que chez
un
moi,
doctorat en sociologie, quand même.
Ouais, au passage. Mais bon, c'est vrai que je venais pas d'une famille où on était docteur. Mmh. Hein. Et moi, je dis souvent aux jeunes, faites des études. Ça, oui. Ne me dites pas, oh, l'école, ça me plaît pas, allez à l'école, etc. Après, bon, le travail, bon, on verra.
Merci d'être venu ici avec tous ces livres, tous ces mots et toute cette liberté. On pense à Rabelais, évidemment, mais et ça nous met droit, ça nous met libre.
Parce que Rabelais, c'est notre culture, hein. Ben, c'est notre auteur. Rabelais, c'est un des fondateurs de la littérature française.
Moi, je sais que ça a été un éblouissement au lycée, quand j'ai découvert Rabelais. Et bien, j'en ai eu un autre avec vous, Gilles Ascari, des Lovers Littérature. Et je voudrais vous dire merci, vous renvoyer à toutes les bonnes librairies, parce qu'on peut retrouver.
Merci, oui.
Et puis, j'espère qu'on vous verra aussi sur scène, soit vos pièces, soit vous comme comédien, peut-être avec votre sœur aussi, Ariane Ascaride, ça vous arrive
oui,
de temps en temps.
Oui, on a des projets, puis je peux vous dire qu'on fait un festival tous les 2 ans.
À Septème-les-Vallons.
Capitale mondiale de l'overlittérature, ouais. Et qu'il se tiendra, c'est pas une blague, le 1er et le 2 avril 2017, à Septème-les-Vallons.
Voilà, le temps buissonnier, c'est fini. Je voudrais quand même dire que le 9 octobre, il y a les 20 km de Paris et que courront pour ces 20 km de Paris près de 70 coureurs pour Pédiatres du Monde. Pédiatres du Monde, c'est une association qui travaille dans beaucoup de coins du monde. Ce sont des médecins. Donc, si vous pouvez aller les soutenir sur le parcours ou tout simplement en allant sur le site Pédiatres du Monde, eh ben, je crois que vous seriez assez content d'y avoir participé. Merci Gilles Ascaride. Le temps buissonnier, c'est fini. Vous pouvez télécharger cette émission, elle est historique, sur le site de France Culture. Aline Payet, Laetitia Coya, Annie Comier, c'est toute l'équipe. À la technique, il y avait Pierrick Monsigny. Je vous laisse pour le premier journal de la journée sur France Culture.